Cette guerre n'est pas une guerre ordinaire. C'est la guerre du peuple russe tout entier.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Quelle est la vraie histoire de la grande guerre patriotique de Staline? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Nicolas Werth. Aujourd'hui, deuxième épisode, la progression allemande et le siège de Leningrad.
Les premiers prisonniers faits au cours de ces deux grandes batailles d'encerclement de Briansk et de Vyazma sont dirigés vers l'arrière. Leur nombre, à la date du 20 octobre, atteint 658 000. Le groupe d'armée du maréchal Timoshenko est anéanti.
Durant l'été 1941, rien ne semble pouvoir arrêter la formidable progression des troupes allemandes en Union soviétique. Au bout seulement de 3 semaines, elles occupent les pays baltes, la Biélorussie, l'Ukraine et presque toute la Moldavie. Hitler compte maintenant s'emparer au plus vite de Leningrad, de Moscou et du pétrole caucasien. L'objectif est militaire, mais pas seulement. Hitler veut mettre fin à ce qu'il appelle le judéo-bolchevisme, c'est-à-dire détruire l'État soviétique, coloniser des territoires, réduire en esclavage leurs habitants slaves, des sous-hommes à ses yeux, et exterminer les juifs et les tziganes qui y vivent. 5 mois après le début de l'opération Barbarossa, 500 000 de juifs ont déjà été massacrés par les Einsatzgruppen. Sur sa route, la Wehrmacht est sans pitié également pour les millions de prisonniers de guerre soviétiques qu'elle n'hésite pas à abattre sur le champ de bataille ou à parquer et affamer dans des camps de concentration. Face au désastre militaire des premières semaines, Joseph Staline tente de remobiliser l'armée et la population. À la radio, il appelle à un sursaut patriotique. Il exhorte non plus seulement ses camarades, terme devenu trop révolutionnaire, mais ses frères et ses sœurs à mener une véritable guerre sacrée contre l'envahisseur.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Début septembre 1941, l'armée d'Hitler est aux portes de Leningrad, l'ex-capitale des Tsars, la deuxième ville du RSS qui compte plus de 3 millions d'habitants. Pour Hitler, cette ville qui porte le nom du chef bolchevique doit, ni plus ni moins, être rasée de la carte. Encerclée et bombardée, la ville est soudain coupée de tout ravitaillement en nourriture et en carburant. Le siège de Leningrad, qui va durer jusqu'en janvier 1944, est un des épisodes les plus tragiques de la Seconde Guerre mondiale, longtemps occulté et mythifié par la propagande soviétique. Près d'un million d'habitants, donc le tiers de la population, essentiellement des civils, hommes, femmes et enfants, y mourront de faim, de froid, de maladie ou victimes des bombardements. En novembre, une jeune fille, Lena Moukina, écrit dans son journal « La situation alimentaire empire de jour en jour. J'ai affreusement faim. J'ai l'impression que je pourrais tout donner pour remplir mon estomac. » Et durant l'hiver 1941-1942, dans les appartements sans chauffage, il faut supporter un froid souvent polaire. « Il fait si froid, écrit Lena, que tout le sang se glace dans les veines et même le cerveau se fige. » Au fil des mois et des rationnements de plus en plus sévères, la faim est si violente qu'elle conduit parfois au vol, au meurtre et même au cannibalisme. Un phénomène qui restera longtemps un des plus grands tabous de l'histoire du siège de Leningrad. Nicolas Werth, comment expliquer l'avancée si rapide de l'armée d'Hitler et la faiblesse de la riposte soviétique ?
Plusieurs raisons peuvent être invoquées, bien sûr. D'abord, des erreurs stratégiques majeures. Le haut commandement et Staline n'avaient jamais véritablement envisagé une invasion de leur pays. Toute la stratégie était de se porter vers une offensive et non pas vers une défensive. Ensuite, il y avait bien sûr un problème majeur de commandement, dans la mesure où, après les purges de 37-38, un très grand nombre d'officiers qualifiés avaient été arrêtés, voire exécutés, et c'était des cadres souvent inexpérimentés qui commandaient les troupes.
Et oui, je crois qu'on ira même chercher au goulag des officiers qui avaient été envoyés là-bas afin de les remettre sur le front. C'est une situation invraisemblable.
Oui, un certain nombre d'officiers supérieurs ont été en effet ramenés du camp. Il y avait également des retards dans la fabrication d'armes, de chars en particulier, et d'avions qui dataient. L'armée rouge n'était pas vraiment prête et la campagne, au fond, extrêmement difficile de l'armée rouge contre la Finlande entre novembre 39 et mars 40 avait montré la guerre d'hiver avait montré les faiblesses de l'armée rouge dont le haut commandement allemand était parfaitement conscient.
Et pour mobiliser ses troupes, Staline donne des ordres qui sont restés de sinistre mémoire. Tout combattant fait prisonnier est déclaré traître à la patrie. Et puis il y a le fameux ordre 227, pas un pas en arrière. De quoi s'agit-il exactement, Nicolas Vert ?
On est en juillet 42, à la suite d'un été d'offensive allemande tout à fait désastreux pour l'armée rouge. Ce fameux ordre 227 du 27 juillet 1942, c'était donc des unités essentiellement formées par les troupes du NKVD, de la police politique, donc qui avaient charge de maintenir l'ordre à tout prix et quitte à tirer sur les troupes qui battraient en retraite.
Concernant Leningrad, Nicolas Vert, comment expliquer la dureté et la longueur de ce siège ? La responsabilité, on revient évidemment d'abord à l'envahisseur allemand, mais est-ce que le pouvoir soviétique a un peu sa part aussi de responsabilité ?
Les autorités soviétiques ont été prises de court absolument au cours de l'été 41, n'ont pas évacué à tant une grande partie de la population, en particulier des enfants. Il y a eu toute une série d'erreurs de commandement, tant et si bien que dès septembre 41, la ville était encerclée de toutes parts et a été l'objet donc d'un siège de 872 jours absolument unique dans l'histoire contemporaine, avec des conditions de vie atroces qui ont amené à près d'un million de civils à mourir de faim au cours en particulier du premier hiver absolument terrible, l'hiver 41-42.
Comment l'histoire officielle du temps de l'Union soviétique, puis ensuite du temps de Vladimir Poutine, comment cette histoire officielle a-t-elle parlé du siège de Leningrad ? L'historienne Sarah Grouchka, qui a consacré récemment un livre passionnant à ce sujet, dit que le siège de Leningrad a été une catastrophe humanitaire, mais que l'histoire officielle a réussi à le convertir en épopée héroïque.
Oui, ça a été évidemment la grande manipulation juste de la période de l'immédiate après-guerre, d'essayer de montrer le côté exclusivement héroïque de la défense de Leningrad, à tel point d'ailleurs que Staline avait fait fermer en 1948 un musée de l'histoire du siège de Leningrad qui, à l'époque, montrait les difficultés et les conditions de vie absolument épouvantables des habitants, mais ça a été fermé très rapidement après-guerre pour donner une image beaucoup plus héroïque de la défense de la ville héros Leningrad. Et donc ce n'est que après la chute de l'URSS, avec l'ouverture des archives, que des historiens ont pu prendre vraiment la mesure de toute une face sombre de ce siège, en particulier la continuation d'arrestations, l'existence d'un marché noir, des rations extrêmement inégalitaires et des phénomènes dont on ne parlait pas du tout, comme la nécrophagie ou le cannibalisme, inévitables dans une situation d'absolue famine.
C'est étonnant, les blokadniki, c'est comme cela qu'on appelait les habitants de Leningrad qui se sont retrouvés dans le blocus, blokadniki, qui pour beaucoup ont écrit un journal intime pendant le siège, redoutent dans leurs écritures, on peut lire ça, qu'ils redoutent que la vérité de ce qu'ils vivent ne soit jamais racontée.
Oui, ça a été évidemment une des grandes trouvailles que ces centaines, même plusieurs centaines de journaux intimes qui ont fait l'objet d'une thèse absolument passionnante de Sarah Grouchka, que vous avez déjà mentionné.
Que vous préfacez.
À cette occasion que ma tante, qui était restée pendant le blocus là-bas, avait elle-même aussi écrit un journal intime que, grâce à Sarah Grouchka, j'ai retrouvé.
Merci Nicolas Werth. Le prochain épisode sera consacré au tournant de la guerre en 1942 et à la bataille de Stalingrad.